Suite du journal d'Alissa. Je lis ce matin dans la bruyère, il y a quelquefois dans le cours de la vie de si chers plaisirs et de si tendres engagements que l'on nous défend, qu'il est naturel de désirer du moins qu'ils fussent permis. De si grands charmes ne peuvent être surpassés que par celui de savoir y renoncer par vertu. Pourquoi donc inventais-je ici la défense ? Serait-ce que m'attire en secret un charme plus puissant encore, plus suave que celui de l'amour ? Oh, pouvoir entraîner à la fois nos deux âmes, à force d'amour, au-delà de l'amour ! Hélas, je ne le comprends que trop bien à présent. Entre Dieu et lui, il n'est pas d'autre obstacle que moi-même. Si peut-être, comme il me le dit, son amour pour moi l'inclina vers Dieu tout d'abord, à présent cet amour l'empêche. Il s'attarde à moi, me préfère, et je deviens l'idole qui le retient de s'avancer plus loin dans la vertu. Il faut que l'un de nous deux y parvienne, et désespérant de surmonter dans mon lâche cœur mon amour, permettez-moi, mon Dieu, accordez-moi la force de lui apprendre à ne m'aimer plus, de manière qu'au prix des miens, je vous apporte ses mérites infiniment préférables. Et si mon âme aujourd'hui sanglote de le perdre, n'est-ce pas pour que, plus tard, je le retrouve en vous ? Dites, ô mon Dieu, quelle âme vous mérita jamais davantage ? N'est-il pas né pour mieux que pour m'aimer ? Et l'aimerais-je autant s'il devait s'arrêter à moi-même ? Combien se rétrécit dans le bonheur tout ce qui pourrait être héroïque. Dimanche. Dieu nous ayant gardés pour quelque chose de meilleur. Lundi 3 mai. Que le bonheur soit là, tout prêt, s'il se propose, n'avoir qu'à allonger la main pour s'en saisir. Ce matin, causant avec lui, j'ai consommé le sacrifice. Lundi soir. Il part demain. Cher Jérôme, je t'aime toujours de tendresse infinie, mais jamais plus je ne pourrai te le dire. La contrainte que j'impose à mes yeux, à mes lèvres, à mon âme, est si dure que te quitter mes délivrances et amère satisfaction. Je m'efforce d'agir avec raison, mais au moment de l'action, les raisons qui me faisaient agir m'échappent ou me paraissent folles. Je n'y crois plus. Les raisons qui me font le fuir, je n'y crois plus. Et je le fuis pourtant, avec tristesse, et sans comprendre pourquoi je le fuis. Seigneur, nous avançons vers vous, Jérôme et moi, l'un avec l'autre, l'un par l'autre. Marchez tout le long de la vie comme deux pèlerins, dont l'un parfois dit à l'autre « Appuie-toi sur moi, frère, si tu es là. » Et dont l'autre réponde « Il me suffit de te sentir près de moi. » Mais non, la route que vous nous enseignez, Seigneur, est une route étroite, étroite à n'y pouvoir marcher deux de front. 4 juillet. Voilà plus de 6 semaines que je n'ai pas rouvert ce cahier. Le mois dernier, en relisant quelques pages, j'y avais surpris un absurde, un coupable souci de bien écrire, que je lui dois. Comme si dans ce cahier, que je n'ai commencé que pour m'aider à me passer de lui, je continuais à lui écrire. J'ai déchiré toutes les pages qui m'ont paru bien écrites. Je sais ce que j'entends par là. J'aurais dû déchirer toutes celles où il est question de lui. J'aurais dû tout déchirer. Je n'ai pas pu. Et déjà, d'avoir arraché ces quelques pages, j'ai ressenti un peu d'orgueil. Un orgueil dont je rirais si mon cœur n'était si malade. Vraiment, il semblait que j'eusse là du mérite et que ce que je supprimais fût grand-chose. 6 juillet. J'ai dû bannir de ma bibliothèque. De livre en livre, je le fuis et le retrouve. Même la page que sans lui je découvre, j'entends sa voix encore me la lire. Je n'ai goût qu'à ce qui l'intéresse, et ma pensée a pris la forme de la sienne, au point que je ne sais les distinguer, pas plus qu'au temps où je pouvais me plaire à les confondre. Parfois, je m'efforce d'écrire mal pour échapper au rythme de ses phrases. Mais lutter contre lui, c'est encore m'occuper de lui. Je prends la résolution de ne plus lire pour un temps que la Bible, l'imitation aussi, peut-être, et de ne plus écrire dans ce carnet que chaque jour le verset marquant de ma lecture. Suivait une sorte de pain quotidien où la date de chaque jour à partir du 1er juillet était accompagnée d'un verset. Je ne transcris ici que ceux qu'accompagnaient aussi quelques commentaires. 20 juillet. Vends tout ce que tu as et le donne aux pauvres. Je comprends qu'il faudrait donner aux pauvres ce cœur dont je ne dispose que pour Jérôme. Et du même coup, n'est-ce pas lui enseigner à faire de même ? Seigneur, donnez-moi ce courage. 24 juillet. J'ai cessé de lire l'internelle consolation. Cette ancienne langue m'amusait fort, mais me distrayait. Et la joie quasi païenne que j'y goûte n'a rien à voir avec l'édification que je me proposais d'y chercher. Repris l'imitation, et non point même dans le texte latin, que je suis trop vaine de comprendre. J'aime que ne soit pas même signée la traduction où je la lis. Protestante, il est vrai, mais appropriée à toutes les communions chrétiennes, dit le titre. Oh, si tu savais quelle paix tu acquerrais et quelle joie tu donnerais aux autres en t'avançant dans la vertu. Je m'assure que tu y travaillerais avec plus de soin. 10 août. Quand je crierai vers vous, mon Dieu, avec l'élan de la foi d'un enfant et la voix surhumaine des anges. Tout cela, je le sais, me vient non de Jérôme, mais de vous. Mais pourquoi, entre vous et moi, posez-vous partout son image ? 14 août. Plus que 2 mois pour parachever cet ouvrage. Ô Seigneur, aidez-moi. 20 août. Je le sens bien, je le sens à ma tristesse, que le sacrifice n'est pas consommé dans mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi de ne devoir qu'à vous cette joie que lui seul me faisait connaître. 28 août. À quelle médiocre, triste vertu je parviens. Exigeais-je donc trop de moi ? N'en plus souffrir. Par quelle lâcheté toujours implorer de Dieu sa force ? À présent, toute ma prière est plaintive. 29 août. Regardez les lys des champs. Cette parole si simple m'a plongé ce matin dans une tristesse dont rien ne pouvait me distraire. Je suis sortie dans la campagne et ces mots, que malgré moi je répétais sans cesse, emplissait de larmes mon cœur et mes yeux. Je contemplais la vaste plaine vide où le laboureur penché sur la charrue peinait. Les lys des champs. Mais, Seigneur, où sont-ils ? 16 septembre, 10 heures du soir. Je l'ai revu. Il est là, sous ce toit. Je vois sur le gazon la clarté qui porte sa fenêtre. Pendant que j'écris ces lignes, il veille, et peut-être qu'il pense à moi. Il n'a pas changé. Il le dit, je le sens. Saurais-je me montrer à lui tel que j'ai résolu d'être, afin que son amour me désavoue ? 24 septembre. Oh, conversation atroce où j'ai su feindre l'indifférence, la froideur, lorsque mon cœur au-dedans de moi se pâmait. Jusqu'à présent, je m'étais contentée de le fuir. Ce matin, j'ai pu croire que Dieu me donnerait la force de vaincre et que me dérober sans cesse à la lutte n'allait pas sans lâcheté. Ai-je triomphé ? Jérôme m'aime-t-il un peu moins ? Hélas, c'est ce que j'espère et que je crains tout à la fois. Je ne l'ai jamais aimé davantage. Et s'il vous faut, Seigneur, pour le sauver de moi, que je me perde, faites. Entrez dans mon cœur et dans mon âme pour y porter mes souffrances et pour continuer d'endurer en moi ce qui vous reste à souffrir de votre passion. Nous avons parlé de Pascal. Qu'ai-je pu lui dire ? Quel honteux, absurde propos ! Si je souffrais en les disant déjà, Ce soir, je m'en repens comme d'un blasphème. J'ai repris le livre pesant des pensées qui de lui-même s'est ouvert à ce passage des lettres à Mademoiselle de Roanet. On ne sent pas son lien quand on suit volontairement celui qui entraîne, mais quand on commence à résister et à marcher en s'éloignant, on souffre bien. Ces paroles me touchaient si directement que je n'ai pas eu la force de continuer ma lecture. Mais ouvrant le livre à un autre endroit, ce fut pour trouver un passage admirable que je ne connaissais pas et que je viens de copier. Ici s'achevait le premier cahier de ce journal. Sans doute un cahier suivant fut détruit, car dans les papiers laissés par Alissa, le journal ne reprenait que 3 ans plus tard, à Fongesmar encore, en septembre, c'est-à-dire peu de temps avant notre dernier revoir. Les phrases qui suivent ouvrent ce dernier cahier. 17 septembre. Mon Dieu, vous savez bien que j'ai besoin de lui pour vous aimer. 20 septembre. Mon Dieu, donnez-le-moi, afin que je vous donne mon cœur. Mon Dieu, faites-le-moi revoir seulement. Mon Dieu, je m'engage à vous donner mon cœur. Accordez-moi ce que mon amour vous demande. Je ne donnerai plus qu'à vous ce qui me restera de vie. Mon Dieu, pardonnez-moi cette méprisable prière, mais je ne puis écarter son nom de mes lèvres, ni oublier la peine de mon cœur. Mon Dieu, je crie à vous, ne m'abandonnez pas dans ma détresse. 21 septembre. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, Seigneur, en votre nom je n'ose. Mais si je ne formule plus ma prière, en connaîtrez-vous moins pour cela le délirant souhait de mon cœur ? 27 septembre. Depuis ce matin, un grand calme. Passé presque toute la nuit en méditation, en prière. Soudain, il m'a semblé que m'entourait, que descendait en moi une sorte de paix lumineuse, pareille à l'imagination qu'enfant je me faisais du Saint-Esprit. Je me suis aussitôt couché, craignant de ne devoir ma joie qu'à une exaltation nerveuse. Je me suis endormie assez vite, sans que cette félicité m'eût quittée. Elle est là ce matin tout entière. J'ai maintenant la certitude qu'il viendra. 30 septembre. Jérôme, mon ami, toi que j'appelle encore mon frère, mais que j'aime infiniment plus qu'un frère. Combien de fois ai-je crié ton nom dans la hêtraie? Sortant chaque soir vers la tombée du jour par la petite porte du potager, je descends l'avenue déjà sombre. Tu me répondrais soudain, tu m'apparaîtrais là, derrière le talus pierreux qui avait hâte de contourner mon regard. Ou bien je te verrais de loin, assis sur le banc, à m'attendre. Mon cœur n'aurait pas un sursaut. Au contraire, je m'étonne de ne pas te voir. 1er octobre. Rien encore. Le soleil s'est couché dans un ciel incomparablement pur. J'attends. Je sais que bientôt, sur ce même banc, je serai assise avec lui. J'écoute déjà sa parole. J'aime tant à l'entendre prononcer mon nom. Il sera là. Je mettrai ma main dans sa main. Je laisserai mon front s'appuyer contre son épaule. Je respirerai près de lui. Hier déjà, j'avais emporté quelques-unes de ses lettres pour les relire, mais je ne les ai pas regardées, trop occupée par sa pensée. J'avais également pris sur moi la croix d'améthyste qu'il aimait et que je portais chaque soir, un des étés passés, aussi longtemps que je ne voulais pas qu'il partît. Je voudrais lui remettre cette croix. Il y a longtemps déjà, je faisais ce rêve. Lui, marié, moi, marraine de sa première fille, une petite Alissa, à qui je donnais ce bijou. Pourquoi n'ai-je jamais osé le lui dire ? 2 octobre. Mon âme est légère et joyeuse aujourd'hui, comme un oiseau qui aurait fait son nid dans le ciel. C'est aujourd'hui qu'il doit venir. Je le sens, je le sais. Je voudrais le crier à tous. J'ai besoin de l'écrire ici. Je ne veux plus cacher ma joie. Même Robert, si distrait d'ordinaire et si indifférent à moi, l'a remarqué. Ses questions m'ont troublé, et je n'ai su quoi lui répondre. Comment vais-je attendre à ce soir? Je ne sais quel transparent bandeau me présente partout, agrandit son image et concentre tous les rayons de l'amour sur un seul point brûlant de mon cœur. Oh, que l'attente me fatigue! Seigneur, en trouvez un instant devant moi les larges vantaux du bonheur. 3 octobre. Tout s'est éteint, hélas. Il s'est échappé d'entre mes bras, comme une ombre. Il était là. Je le sens encore. Je l'appelle. Mes mains, mes lèvres le cherchent en vain dans la nuit. Je ne puis ni prier ni dormir. Je suis ressortie dans le jardin sombre. Dans ma chambre, dans toute la maison, j'avais peur. Ma détresse m'a ramenée jusqu'à la porte derrière laquelle je l'avais laissée. J'ai rouvert cette porte avec une folle espérance. S'il était revenu, j'ai appelé, j'ai tâtonné dans les ténèbres, je suis rentrée pour lui écrire. Je ne peux accepter mon deuil. Que s'est-il donc passé? Que lui ai-je dit? Qu'ai-je fait? Quel besoin devant lui d'exagérer toujours ma vertu? De quel prix peut-être une vertu que mon cœur tout entier renie? Je mentais en secret aux paroles que Dieu proposait à mes lèvres. De tout ce qui gonflait mon cœur, rien n'est sorti. Jérôme, mon ami douloureux, près de qui mon cœur se déchire, et loin de qui je meurs, de tout ce que je te disais tantôt, n'écoute rien que ce qui te racontait mon amour. Déchirai ma lettre, puis récris. Voici l'aube, grise, mouillée de pleurs, aussi triste que ma pensée. J'entends les premiers bruits de la ferme, et tout ce qui dormait reprend vie. À présent, levez-vous, voici l'heure. Ma lettre ne partira pas. 5 octobre. Dieu jaloux qui m'avait dépossédé, emparez-vous donc de mon cœur. Toute chaleur désormais l'abandonne, et rien ne l'intéressera plus. Aidez-moi donc à triompher de ce triste restant de moi-même. Cette maison, ce jardin, encourage intolérablement mon amour. Je veux fuir en un lieu où je ne verrai plus que vous. Vous m'aiderez à disposer pour vos pauvres de ce que je possédais de fortune. Laissez-moi disposer en faveur de Robert de fongueuses mares que je ne puis vendre aisément. J'ai bien écrit un testament, mais j'ignore la plupart des formalités nécessaires. Et hier, je n'ai pu causer suffisamment avec le notaire, craignant qu'il ne soupçonnât la décision que j'ai prise et n'avertît Juliette ou Robert. Je compléterai cela à Paris. 10 octobre. Suis arrivée ici si fatiguée que j'ai dû rester couchée les deux premiers jours. Le médecin qu'on a fait venir, contre mon gré, parle d'une opération qu'il juge nécessaire. À quoi bon protester? Mais je lui ai fait aisément croire que cette opération m'effrayait et que je préférais attendre d'avoir repris quelque force. J'ai pu cacher mon nom, mon adresse. J'ai déposé au bureau de la maison suffisamment d'argent pour qu'on ne fît point difficulté de me recevoir et de me garder autant de temps que Dieu va le juger encore nécessaire. Cette chambre me plaît. La parfaite propreté suffit à l'ornement des murs. J'étais tout étonnée de me sentir presque joyeuse. C'est que je n'espère plus rien de la vie. C'est qu'il faut à présent que je me contente de Dieu et que son amour n'est exquis que s'il occupe en nous toute la place. Je n'ai pris avec moi d'autre livre que la Bible, mais aujourd'hui, plus haut que les paroles que j'y lis, résonne en moi ce sanglot éperdu de Pascal. Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas remplir mon attente. Oh, trop humaine joie que mon cœur imprudent souhaitait! Est-ce pour obtenir ce cri, Seigneur, que vous m'avez désespéré? 12 octobre. Que votre règne vienne, qu'il vienne en moi, de sorte que vous seul régnez sur moi, et régnez sur moi tout entière. Je ne veux plus vous marchander mon cœur. Fatiguée comme si j'étais très vieille, mon âme garde une étrange puérilité. Je suis encore la petite fille que j'étais, qui ne pouvait pas s'endormir, que tout ne fût en ordre dans sa chambre, et bien plié au chevet du lit les vêtements quittés. C'est ainsi que je voudrais me préparer à mourir. 13 octobre. Relus mon journal avant de le détruire. Il est indigne des grands cœurs de répandre le trouble qu'ils ressentent. » Elle est de Clotilde de Vaux, je crois, cette belle parole. À l'instant de jeter au feu ce journal, une sorte d'avertissement m'a retenu. Il m'a paru qu'il ne m'appartenait déjà plus à moi-même, que je n'avais pas le droit de l'enlever à Jérôme, que je ne l'avais jamais écrit que pour lui. Mes inquiétudes, mes doutes, me paraissent si dérisoires aujourd'hui que je ne puis plus y attacher d'importance, ni croire que Jérôme puisse en être troublé. Mon Dieu, laissez qu'il y surprenne parfois l'accent malhabile d'un cœur désireux jusqu'à la folie de le pousser jusqu'à ce sommet de vertu que je désespérais d'atteindre. Mon Dieu, conduisez-moi sur ce rocher que je ne puis atteindre. 15 octobre. Joie, 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 pleurs de joie. Au-dessus de la joie humaine, et par-delà toute douleur, oui, je pressens cette joie radieuse. Ce rocher où je ne puis atteindre, je sais bien qu'il a nom. Bonheur. Je comprends que toute ma vie est vaine, sinon pour aboutir au bonheur. Ah, pourtant vous le promettiez, Seigneur, à l'âme renonçante et pure. Heureux dès à présent, disait votre sainte parole, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Dois-je attendre jusqu'à la mort? C'est ici que ma foi chancelle. Seigneur, je crie à vous de toutes mes forces. Je suis dans la nuit, j'attends l'aube. Je crie à vous jusqu'à mourir. Venez désaltérer mon cœur. De ce bonheur j'ai soif aussitôt. Où dois-je me persuader de l'avoir? Et comme l'impatient oiseau qui crie par-devant l'aurore, appelant plus qu'annonçant le jour, dois-je n'attendre pas le pâlissement de la nuit pour chanter? 16 octobre. Jérôme, je voudrais t'enseigner la joie parfaite. Ce matin, une crise de vomissement m'a brisée. Je me suis sentie, sitôt après, si faible, qu'un instant j'ai pu espérer de mourir. Mais non, il s'est d'abord fait dans tout mon être un grand calme. Puis une angoisse s'est emparée de moi, un frisson de la chair et de l'âme. C'était comme l'éclaircissement brusque et désenchanté de ma vie. Il me semblait que je voyais pour la première fois les murs atrocement nus de ma chambre. J'ai pris peur. À présent encore j'écris pour me rassurer, me calmer. Ô Seigneur, puissais-je atteindre jusqu'au bout sans blasphème? J'ai pu me lever encore. Je me suis mise à genoux comme un enfant. Je voudrais mourir à présent. Vite, avant d'avoir compris de nouveau que je suis seule. Fin du journal. J'ai revu Juliette l'an passé. Plus de 10 ans s'étaient écoulés depuis sa dernière lettre, celle qui m'annonçait la mort d'Alissa. Un voyage en Provence me fut une occasion de m'arrêter à Nîmes. Avenue de Feuchères, au centre bruyant de la ville, les Tessières habitent une maison d'assez belle apparence. Bien que j'eusse écrit pour annoncer ma venue, j'étais passablement émue en franchissant le seuil. Une bonne me fit monter dans le salon où, quelques instants après, Juliette vint me rejoindre. Je crus voir la tante Plantier. Même démarche, même carrure, même cordialité essoufflée. Elle me pressa tout aussitôt de questions, dont elle n'attendait pas les réponses, sur ma carrière, mon installation à Paris, mes occupations, mes relations. Qu'est-ce que je venais faire dans le midi? Pourquoi n'irais-je pas jusqu'à Aigues-Vives, où Édouard serait si heureux de me voir? Puis elle me donnait des nouvelles de tous, parlait de son mari, de ses enfants, de son frère, de la dernière récolte, de la mévente. J'apprenais que Robert avait vendu Fonguesmar pour venir habiter Aigues-Vives, qu'il était maintenant l'associé d'Édouard, ce qui permettait à celui-ci de voyager et de s'occuper plus spécialement de la partie commerciale de l'affaire, tandis que Robert restait sur les terres, améliorant et étendant les plans. Cependant, je cherchais des yeux, inquiètement, ce qui pouvait rappeler le passé. Je reconnaissais bien, parmi le mobilier neuf du salon, quelques meubles de Fonguesmar. Mais ce passé qui frémissait en moi, il semblait que Juliette à présent l'ignorât, ou prit à tâche de nous en distraire. Deux garçons de 12 et 13 ans jouaient dans l'escalier. Elle les appela pour me les présenter. Lise, l'aînée de ses enfants, avait accompagné son père à Aigues-Vives. Un autre garçon de 10 ans allait rentrer de promenade. C'est celui dont Juliette m'avait annoncé la naissance prochaine, en m'annonçant aussi notre deuil. Cette dernière grossesse ne s'était pas terminée sans peine. Juliette en était restée longtemps éprouvée. Puis, l'an passé, comme se ravisant, elle avait donné le jour à une petite fille qu'il semblait à l'entendre parler qu'elle préférât à ses autres enfants. « Ma chambre, où elle dort, est à côté, » dit-elle. « Viens la voir. » Et comme je la suivais, « Jérôme, je n'ai pas osé te l'écrire. Consentirais-tu à être parrain de cette petite ?»« Mais j'accepte volontiers, si cela doit être agréable, » dis-je, un peu surpris, en me penchant vers le berceau. « Quel est le nom de ma filleule ?»«
Alissa, » répondit Juliette à voix basse. « Elle lui ressemble un peu, ne trouves-tu pas ?»
Je serrai la main de Juliette sans répondre. La petite Alissa, que sa mère soulevait, ouvrit les yeux. Je la pris dans mes bras. « Quel bon père de famille tu ferais !» dit Juliette en essayant de rire. « Qu'attends-tu pour te marier ?»«
D'avoir oublié bien des choses. »
Et je la regardai rougir. « Que tu espères oublier bientôt ?»«
Que je n'espère pas oublier jamais. »«
Viens par ici !» dit-elle brusquement en me précédant dans une pièce plus petite et déjà sombre, dont une porte ouvrait sur sa chambre et l'autre sur le salon. « C'est là que je me réfugie quand j'ai un instant. C'est la pièce la plus tranquille de la maison. Je m'y sens presque à l'abri de la vie. » La fenêtre de ce petit salon n'ouvrait pas, comme celle des autres pièces, sur les bruits de la ville, mais sur une sorte de préau planté d'arbres. « Asseyons-nous !» dit-elle en se laissant tomber dans un fauteuil. « Si je te comprends bien, c'est au souvenir d'Alissa que tu prétends rester fidèle. » Je fus un instant sans répondre. « Peut-être plutôt à l'idée qu'elle se faisait de moi. Non, ne m'en fais pas un mérite. Je crois que je ne puis faire autrement. Si j'épousais une autre femme, je ne pourrais faire que semblant de l'aimer. « Ah !» fit-elle comme indifférente. Puis détournant de moi son visage, qu'elle penchait à terre comme pour chercher je ne sais quoi de perdu. « Alors, tu crois qu'on peut garder si longtemps dans son cœur un amour sans espoir ?»«
Oui, Juliette. »«
Et que la vie peut souffler dessus chaque jour sans l'éteindre ?» Le soir montait comme une marée grise, atteignant, noyant chaque objet, qui dans cette ombre semblait revivre, et raconter à mi-voix son passé. Je revoyais la chambre d'Alissa, dont Juliette avait réuni là tous les meubles. À présent, elle ramenait vers moi son visage, dont je ne distinguais plus les traits, de sorte que je ne savais pas si ses yeux n'étaient pas fermés. Elle me paraissait très belle, et tous deux nous restions à présent sans rien dire. « Allons, » fit-elle enfin, « il faut se réveiller. » Je la vis se lever, faire un pas en avant, retomber comme sans force sur une chaise voisine. Elle passa ses mains sur son visage et il me parut qu'elle pleurait. Une servante entra qui apportait la lampe.